Donc, la question la plus importante à se poser est la suivante. Comment un commerce en ligne peut-il augmenter ses ventes, son trafic et son taux de conversion? Eh bien, qui dit question dit également réponse. À chaque mardi, vous aurez donc la chance d'entendre des experts d'un peu partout du milieu francophone. Abonnez-vous, prenez des notes et soyez attentifs. Bienvenue à tous au podcast Commerce Élite. Bienvenue à tous au nouvel épisode du podcast Commerce Élite présenté par l'agence Pure Commerce, un partenaire de croissance qui veut transformer votre commerce en ligne en commerce élite. Et aujourd'hui, on parle de emailing à nouveau avec nos derniers tests du mois d'août. On vous livre également une chronique sur le logiciel Relo, un incontournable quand vous œuvrez dans le commerce électronique. Prenez des notes, ça commence maintenant. J'ai récemment découvert Relo, R-E-L-O. C'est un SaaS pour e-commerce qui analyse vos données Shopify pour prédire quand ils voudront acheter de nouveau ou arrêter leur abonnement. Un must quand on est un e-commerce avec beaucoup de données et des problématiques d'engagement à long terme, je dois dire. Leur site contient énormément de ressources, notamment des interviews d'agences e-commerce qui viennent témoigner de leur spécialité et des points forts sur lesquels, selon eux, il faut travailler en tant que commerçant. Des nouveaux articles te sont publiés constamment, alors je vous invite vraiment à vous y rendre, mais pour cette petite chronique, j'ai synthétisé trois interviews, celles de Will Tackle, Matt Abbott et Tom Mucklow, tous les trois experts en e-commerce. La première question est simple, dans quel domaine un e-commerce doit mettre ses efforts en 2022? Parmi les réponses, celle de Tom m'a beaucoup plu car elle était aussi simple que la question. La rétention, parce que les coûts d'acquisition sont de plus en plus élevés. Toucher un client existant est le moyen le plus facile pour le convertir à nouveau. Il prend notamment l'exemple d'une marque de cosmétiques qui, lorsque ses clients arrivent à la fin de leur produit, un pot en l'occurrence, leur envoie un petit colis dans lequel se trouve une petite cuillère spécifiquement conçue pour racler le fond du pot et une réduction pour un prochain achat. Je trouve l'idée fantastique. D'un côté, vous vous adressez à votre client avant qu'il ait besoin de vous avec une attention toute particulière à un problème qu'il rencontre et de l'autre, vous lui faites un appel à l'action. De faire plus complet. Le deuxième expert, Matt, nous parle de Customer Advocacy. Ça consiste à convertir vos clients existants en ambassadeurs de marque. Ça prend nécessairement des efforts de relations clients pour leur demander des avis, des images et des vidéos que vous pouvez exploiter par la suite pour convertir de nouveaux clients. Un autre conseil, celui de Will, consiste à traiter l'ensemble de vos canaux d'acquisition payants comme un tout et non à l'échelle individuelle, ce qui est plus dur à présent. Il suffit d'avoir Google Ads, TikTok Ads et Facebook Ads ensemble pour se perdre dans le suivi. C'est pour cette raison qu'il recommande de segmenter. Si votre emailing ne fonctionne plus aussi bien qu'avant, c'est peut-être parce qu'il faut améliorer votre acquisition en amont pour envoyer des leads dans le tunnel de vente, par exemple. D'ailleurs, ces deux experts vous recommandent chaudement d'intégrer le SMS marketing à votre boutique. C'est un levier dont on a déjà dit du bien auparavant sur le podcast. N'hésitez plus. Parlons tendance du marché. Toujours avec Will qui nous explique que l'industrie n'est plus omnubilée par les métriques du ROAS, donc le ROAS, ce qu'on a d'ailleurs expliqué dans une dernière chronique. Maintenant, la majorité des e-commerce optimisent leur acquisition payante via le MER, le Average Order Value ou encore le Lifetime Value. Et c'est là que ça devient intéressant parce qu'on a trois experts qui sont tous dans la même industrie, mais à des niveaux différents de services qui convergent vers le même point, Lifetime Value. Parce que la rétention augmente le Lifetime Value, que le Customer Advocacy participe à la relation client, et que celle-ci améliore forcément votre valeur à long terme. Ces trois entretiens expliquent fondamentalement la même chose. Acquérir, c'est cher et convertir de nouveau, les moins. J'aimerais revenir sur Tom Mucklow, le tout premier expert de la série. Concernant la tendance de l'industrie, il observe que, de plus en plus, les annonceurs proposent un programme par abonnement, un peu comme avec Amazon Prime, c'est-à-dire que vous obtenez beaucoup de valeur supplémentaire dans votre expérience avec la marque, comme la livraison gratuite, des accès anticipés et des nouveautés. Ça permet un flot de revenus réguliers, un peu comme un SaaS, sans pour autant s'écarter de son business de base. Si l'industrie de l'abonnement vous intéresse, vous pouvez écouter notre épisode numéro 4 qui parle de l'étude de Recharge. À quoi ressemble votre taux d'ouverture email? 15%, 18%? Êtes-vous toujours en train d'envoyer vos initiatives courriels à l'ensemble de votre base? Si vous sentez que votre taux d'ouverture pourrait clairement s'améliorer, je vous invite à écouter la discussion que je vais avoir avec un de nos experts emailing chez Pure Commerce, Florian Vinel. Florian nous explique comment il a été capable avec un client d'augmenter en moyenne le taux d'ouverture email par 80% en utilisant une technique spécifique de segmentation. Je le répète, mais sortez le cahier de notes. L'entretien commence maintenant. Donc, on aborde maintenant la partie discussion du podcast, le podcast Commerce Élite, et je suis avec nul autre qu'un habitué maintenant du balado, Florian Vinel, responsable du département emailing chez Pure Commerce. Florian, comment ça va?
Salut Antoine, en pleine forme.
Et là, Florian, aujourd'hui, tu vas nous dire comment, avec nos envois email, on peut, de un, éviter le spam et ultimement augmenter notre taux d'ouverture de 80%. Là, c'est ce que j'ai lu un petit peu dans les notes avant l'entretien. Dis-nous un petit peu qu'est-ce qui s'est déroulé ici, de quel type de client on parle pour essayer de donner plus de contexte à notre audience.
Exactement. Donc oui, c'est ça. Deux points principaux aujourd'hui. Déjà, éviter la boîte spam et puis augmenter notre taux d'ouverture par la même occasion. Donc ici, en fait, c'est un cas pratique d'une entreprise qui envoie énormément d'emails, qui travaille dans la mode en gros, et qui se trouve avoir, il y a de ça quelques mois, un taux d'ouverture vraiment, vraiment terrible, qui était autour des 15%, quelque chose comme ça. Et donc, mon mandat, c'était un peu justement d'aller améliorer cette situation-là. Et j'en ai fait un peu un document que je vais vous exposer aujourd'hui pour essayer de vous permettre donc à la fois d'éviter la boîte spam de vos abonnés et d'augmenter votre taux d'ouverture. Et donc, plus de gens ouvrent vos emails, plus de revenus pour vous.
Donc, dis-nous un petit peu de où est-ce qu'on part ici. Pour quelle raison à l'époque, à l'époque même quelques mois, maintenant ça fait pas tellement longtemps, quand on reprend ce compte mailing-là, pourquoi on a des taux d'ouverture aussi bas? Pourquoi on est à 15%? Qu'est-ce qui se déroule à ce moment-là?
Tout est question ici de segmentation et c'est justement ce qu'on manquait à l'époque, c'est-à-dire qu'on envoyait tout simplement nos emails à tout le monde dans notre liste. Et dans cette liste-là, j'avais fait par exemple un essai à l'époque de prendre un segment de personnes ayant reçu, je pense c'était 30 emails et plus dans les derniers mois et qui n'ont pas ni ouvert ni cliqué aucun des emails et qui n'ont pas été non plus actifs sur le site. Et je pense que sur une liste de 60 000 personnes, il y avait à peu près 15 000, 16 000 personnes là-dessus qui étaient dans ce segment vraiment non engagés, puisque après avoir reçu 30 emails et n'en avoir aucun ouvert aucun, je pense qu'on peut considérer que cette personne-là ne veut pas recevoir de nos communications. Donc ça, c'était déjà un premier constat. Et puis, un deuxième constat, c'est que le fait justement d'envoyer ces emails à tout le monde et donc à beaucoup de gens non engagés qui n'ouvraient pas nos emails, eh bien, on avait un taux de spam et de soft bounce, de hard bounce, qui était très élevé. Et donc finalement, tout ça nous amène au point le plus important, c'est que les services de messagerie tels que Gmail, Hotmail, Yahoo, etc., ils nous donnent une sorte de score, c'est l'idée que je m'en fais en tout cas, qui est déterminée surtout par le nombre d'emails que l'on peut envoyer et à quel point les gens les consomment. Et il se trouve que pour ce client-là, comme ces deux stats étaient très faibles, on avait vraiment une énorme problématique dans le sens où les gens recevaient beaucoup, beaucoup de ces emails-là dans les spams.
Puis bon, on s'entend, si ça va dans les spams, ça va clairement pas à la personne qu'on veut rejoindre avec avec nos initiatives, segmentation est mise en place. Mais là, il y a une question souvent qui vient au bout des lèvres de beaucoup de clients avec qui on travaille et même de certaines personnes dans l'univers du e-commerce. Mais là, on a payé pour aller chercher ces emails-là. Pourquoi on les utilise plus? Pourquoi on va pas envoyer des emails à ces gens-là? Qu'est-ce que tu réponds à ça, Florian? Parce que même nous, autant pour Pure Commerce que pour G7, on fait beaucoup de emailing. Et là, des fois, je me dis, voyons donc, on a une liste aussi grande. On a une liste qui est très, très grande qu'on a bâtie au cours des années. On envoie nos emails uniquement à ces gens-là. On n'est pas en train de perdre de l'argent de pas envoyer nos emails à tout le monde. Ça serait quoi ta réponse, toi, à ça?
Ça a été justement la première réflexion de cette personne-là quand je lui ai dit il faut qu'on utilise des segments engagés et donc on va envoyer plutôt, au lieu d'envoyer 70 000 emails, on va en envoyer 35 000. Il m'a tout de suite regardé avec des gros yeux. Et en fait, c'est intéressant puisqu'on a fait un test avec lui la semaine dernière sur justement ce segment non engagé que j'appelle moi Sunset. Et donc, ce segment en particulier, c'était les personnes qui ont reçu plus de 30 emails et qui n'en ont ouvert aucun, cliqué aucun, qui n'ont pas été actifs sur le site non plus dans les 6 derniers mois, je crois. Et donc, on se ramassait avec ces 15 000 personnes. Et on a fait l'essai de leur envoyer une offre assez importante, sachant que ce client-là ne donne très, très peu de code de réduction. Et donc là, on leur a envoyé un moins 10%, ce qui est en soi une des meilleures offres que ce client fait. Et on a eu, je crois que c'est 0,8% d'ouverture sur 15 000 personnes. Donc, je pense 150 personnes ont ouvert sur 15 000, ce qui te montre vraiment... que ces personnes-là n'en ont rien à faire de ton email, quoi, tout simplement. Et donc, faut comprendre aussi une chose, c'est que les applications de mailing comme Klaviyo, Mailchimp, très souvent, vont te charger au nombre de contacts que tu as ou au nombre d'emails que tu envoies. Et donc, tu imagines bien que cette personne-là qui envoie un email tous les deux jours, donc admettons 15 emails par mois, 15 000 fois 15, bon, ça fait un certain chiffre que je calculerai pas, mais ça détermine le prix de l'abonnement de ton application mailing que tu payes.
Donc, littéralement.
Ça peut être, je sais pas, 50, 100, 150 dollars par mois que tu payes en trop à envoyer des emails à des gens qui ne veulent tout simplement pas ni les recevoir ni les lire. Donc finalement, on a fait zéro de revenus.
Exact. Avec, et voilà, zéro quasiment de taux d'ouverture, là.
Exactement. 0,8 ou 0,6%, je crois. Ce qui est vraiment ridicule. Et donc, c'est ça. Est-ce qu'on perd de l'argent à ne pas envoyer des emails à des gens qui ne sont pas engagés? Selon moi, non. Ou alors, ça va être peut-être 0,5% si quelqu'un par miracle, nous voit d'habitude pas les emails et ce coup-ci va être intéressé, mais. Il n'y a pas d'argent à perdre. Je ne dirais pas non plus qu'il y en a énormément à gagner, mais c'est en tout cas très important de faire attention à sa réputation d'expéditeur vis-à-vis des services de messagerie. Et donc, je pense que le nerf de la guerre, il est là, parce que si tu conserves une bonne réputation d'expéditeur, toutes les futurs leads, et bien évidemment les actuels, mais les futurs surtout, on s'assure qu'ils restent dans le loop avec nous le plus longtemps possible et que nos emails continuent d'arriver dans leur boîte de réception et non pas dans la boîte de spam.
Et parlons un petit peu de ce, je ne sais pas si c'est le bon terme, un radar anti-spam ou comment tout ça fonctionne, disons, si on prend Gmail ici.
Par exemple, il y a déjà plusieurs choses assez simples qu'il fait. Par exemple, vérifier l'adresse électronique de nous, du coup, des expéditeurs, hein, par rapport à la base de données des domaines de la liste noire de Gmail. Donc, ça peut être, être associé à... si dans notre nom d'expéditeur, on a une portion qui est associée à quelque chose qui est dans cette liste noire, ça peut déjà nous porter préjudice. Ça, c'est une chose. Il vérifie ensuite tous les liens, par exemple, par rapport à sa base de données de liens malveillants connus, et il les compare aux liens contenus dans l'email que nous, on envoie. Il va vérifier, par exemple, les fautes d'orthographe, de grammaire. Donc ça, c'est une liste colossale qu'il a, et quand on fait des fautes d'orthographe, on a malheureusement plus de chances de tomber dans la boîte spam. Donc ça, c'est quelques éléments que Gmail prend en compte dans son radar anti-spam, par exemple.
Intéressant. Donc bon, on revient à notre cas client. On a 15% de taux d'ouverture à l'époque. On démontre finalement au client qu'on ne peut pas envoyer le email à toute la liste, parce que la liste, pour certaines personnes, c'est une très mauvaise liste. Les gens n'ouvrent pas l'email, ne sont plus intéressés. Il faut également le mentionner à notre audience. Une liste, ça se renouvelle, hein? Parce que on a un email peut-être qu'on utilisait il y a 2-3 ans, que c'est plus le même email qu'on utilise aujourd'hui, parce que peut-être qu'on a changé d'emploi, parce que peut-être qu'on a créé simplement un nouveau email. Donc ça, c'est important de comprendre pour notre audience aujourd'hui qu'un email, ultimement, a quand même une durée de vie, hein? Il y a une durée de vie dans le temps. Ça veut pas dire que tu acquiers quelqu'un aujourd'hui, que cette personne-là va toujours consommer ses emails au même endroit. Mais bon, on revient à notre cas. 15% de taux d'ouverture, finalement, tu prouves au client qu'il y a un segment de sa liste qui n'est pas bon. Qu'est-ce qu'on fait après?
Là, l'intérêt, déjà, premier, c'est d'aller voir quel est le service de messagerie qui nous renvoie un taux d'ouverture le plus faible. Et donc, généralement, dans n'importe quelle app mailing, on peut faire ce breakdown. C'est-à-dire qu'on va avoir une performance selon le domaine d'email, hotmail.com, gmail.com, yahoo.com, etc. Et donc, sur ce client en particulier, on se rendait compte que c'était vraiment les segments hotmail et gmail qui étaient à 9,7% et 11,3%. Les autres, c'était correct, disons, entre 25% et plus. Donc c'était vraiment venir isoler les utilisateurs Hotmail et les utilisateurs Gmail de sa liste et travailler sur ces deux segments-là pour faire remonter son taux d'ouverture global. Donc ici, c'est quelque chose en deux étapes, si on veut. Donc on va d'abord déterminer quels sont les profils qui utilisent Gmail, quels sont les profils qui utilisent Hotmail, première étape. Et ensuite, là-dedans, on va venir chercher les personnes engagées de ces deux segments. Qu'est-ce que c'est qu'une personne engagée? Ça peut varier énormément selon plein de critères, l'industrie, etc. Mais de manière globale, c'est quelqu'un qui ouvre nos emails déjà, premièrement. Donc forcément, c'est quelqu'un qui va avoir ouvert au moins un email dans un laps de temps. Ça peut être 30 jours, 60 jours, etc. Ça peut être quelqu'un qui a cliqué un email. Ça peut être quelqu'un qui a ajouté quelque chose au panier. Ça peut être quelqu'un qui a visité un produit. Ça, c'est un petit peu des choses avec lesquelles on peut jouer. C'est pas quelque chose qui est coulé dans le marbre, mais dans tous les cas, voilà, nous, dans ce cas précis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris du coup les utilisateurs Gmail. On a sorti une liste engagée de ces utilisateurs-là, donc qui ont ouvert deux emails dans les 30 derniers jours, qui ont cliqué au moins un email dans les 30 derniers jours, etc. Et donc ça, c'est sujet à changer ensuite, mais c'était la base pour commencer un travail sur la liste. Donc à partir de là, on avait quatre segments finalement. Un, les utilisateurs Gmail. Deux, les utilisateurs Hotmail. Et trois et quatre, les deux segments engagés de Gmail et Hotmail. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Dans les envois, les prochains envois, ce qui se passe, c'est qu'on va faire un premier envoi à notre liste habituelle, à laquelle on va venir exclure les utilisateurs Gmail et les utilisateurs Hotmail. Par la suite, on va dupliquer cet envoi, faire cet envoi à un segment engagé de Gmail, et une troisième duplication, on va envoyer ce segment au segment engagé Hotmail. Et c'est comme ça qu'on peut vraiment avoir un breakdown des statistiques sur la liste moins les utilisateurs Gmail et Hotmail, quel est le pourcentage d'ouverture sur le segment engagé Gmail, quel est le pourcentage d'ouverture sur le segment engagé Hotmail. Et de là, on va pouvoir ensuite aller bidouiller un peu la définition de notre segment engagé, ajouter par exemple des gens qui ont passé commande dans les X derniers temps, ajouter des gens qui ont ajouté au panier, etc. Le but, en fait, c'est vraiment de revenir à la base, de garder les gens les plus engagés au départ et venir ajouter des profils dans ces segments engagés pour qu'on ait évidemment un volume qui soit le plus conséquent possible, tout en faisant attention à nos statistiques d'ouverture qui sont un peu le reflet de à quel point on est bon et à quel point on arrive dans la boîte de réception ou non.
Et parlant de statistiques, après ces différentes étapes qui sont quand même assez intéressantes, fascinantes même de ce que tu viens de partager avec notre audience, on se retrouve où, Florian? Est-ce qu'on a été capable de faire des gains un peu? On était à 15% au départ. Est-ce qu'on a été capable, ultimement, d'augmenter nos taux d'ouverture?
Tout à fait. Ben donc, j'ai fait énormément de tests et d'envois. Et les deux segments engagés, Hotmail et Gmail, ont beaucoup changé dans leur définition. Et finalement, quand j'arrive là à quelque chose de satisfaisant, finalement, on en est au point où on a doublé le taux d'ouverture, on a doublé le taux de clic et on a aussi doublé les ventes. Ce qui, en soi, n'était pas particulièrement le but, mais c'est quand même intéressant de voir quand on se concentre vraiment sur les personnes engagées de notre liste, tous les résultats sont à la hausse, quoi. Donc, on a, par exemple, sur notre segment All Active, donc tous nos abonnés en retirant les Gmail et Hotmail, on a 27,2% d'ouverture, 1,2% de clic, alors qu'à l'époque, on était à 0,6. Sur le segment engagé Gmail, on est à 36,8%, alors qu'à l'époque, on était à 9%. Sur le segment engagé Hotmail, on est à 20,3%, alors qu'à l'époque, on était à quelque chose comme 11%. Donc, dans le global, voilà, on a doublé le taux d'ouverture, doublé le taux de clic et doublé les ventes. Ce qui est plutôt
aussi simple.
Sympa.
Aussi simple.
c'est sympatoche, quoi. Les chiffres sur deux semaines, avant qu'on applique la segmentation, en fait, c'était 500 000 emails envoyés, 14,82 d'ouverture, 0,8% de clic. Et la situation après, donc on a envoyé 300 000 emails, ce qui fait 200 000 emails de moins quand même. Mais dans le global, on a 80% d'ouverture en plus, plus 35% de clic et plus 22% de taux de commande.
Donc, et là la différence. Et là la différence, c'est qu'à quoi bon se forcer à envoyer des emails à des listes non engagées? Il faut juste comprendre ultimement que, comme on l'a dit plus tôt, des listes, ça se renouvelle et les résultats parlent pour eux-mêmes ici. Puis c'est pas sorti, encore une fois, c'est ça que je trouve fantastique, c'est qu'avec l'emailing, et je sais pas combien de fois on le dit sur le podcast Commerce Elite, mais ça prend pas la tête à Papineau pour penser à ces segmentations-là. Faut comprendre l'environnement marketing dans lequel on est. Faut comprendre que des gens qui veulent entendre parler de notre entreprise et il y en a d'autres qui ne veulent plus entendre parler de notre entreprise. Aussi simple. Comme n'importe quel consommateur, des fois, ne veut plus entendre parler d'une certaine organisation. C'est simplement normal, mais il faut l'appliquer. Il faut être pragmatique par rapport à tout ça, parce que plus de gens dans ta liste ne veut pas nécessairement dire plus de ventes. On a la preuve à l'appui.
Exactement. Et puis là, bon, c'est un cas entre guillemets compliqué, mais en soi, ce sont plein de petites choses simples à appliquer. Ce qu'il faut retenir pour un bon segment engagé, c'est tout simplement de envoyer nos communications à des gens qui veulent les recevoir, donc des gens qui ouvrent nos emails, des gens qui cliquent nos emails, des gens qui sont actifs sur notre site, des gens qui ajoutent au panier, qui passent commande, qui visitent nos produits. Ça, ce sont les personnes qui veulent voir nos communications et c'est avec eux, avant tout, qu'on veut garder le contact.
Effectivement. Florian Vinel, avant de te laisser filer, aurais-tu autre chose à dire sur ces tests de segmentation qui, ultimement, vont nous aider à augmenter nos taux d'ouverture?
Ben écoute, ça fait pas mal le tour. C'est sûr que voilà, il faut bien retenir que, par exemple, sur ce client, on fait 40% de son chiffre d'affaires par mail. Donc, la situation et la santé de son compte et de sa liste est bien évidemment cruciale. Et la segmentation, c'est certainement, je pense, l'objectif et le focus numéro un, en tout cas, pour moi et pour nos clients, quoi.
Intéressant. Florian Vinel, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Commerce CD.